Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Dalméda. Aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie, où se déroulent des événements extraordinaires avec la fin de règne annoncée d'Abdelaziz Bouteflika.
Au cœur de l'histoire.
Et cette annonce ce soir de l'agence officielle algérienne Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un cinquième mandat. Le président sortant qui annonce également le report de la présidentielle du 18 avril après un mois de contestation dans son pays.
C'était le 11 mars 2019, on apprenait que le président Bouteflika ne briguerait pas un cinquième mandat. Sous la pression de la rue, finalement, il se retirait. D'un coup, 20 années semblaient devoir être étudiées entre 1999 et 2019. L'heure du bilan avait sonné. D'où vient ce mécontentement? Comment l'Algérie en est-elle arrivée là? Que s'est-il passé dans ce pays qui entretient une relation passionnelle avec la France? Ce vieil homme à la santé fragile, Bouteflika, est-il le seul responsable ou bien y a-t-il derrière lui d'autres personnalités impliquées? C'est ce que nous allons voir maintenant et je vous emmène au cœur de l'Algérie contemporaine, sous le règne, pourrait-on dire, de Bouteflika Ier. Et cela commence en 1999 sur Europe 1.
Quelle légitimité pour le prochain président algérien? Il n'y a plus qu'un seul candidat pour l'élection qui a lieu aujourd'hui. Ses 6 adversaires ont décidé de se retirer hier en affirmant détenir les preuves qu'il y a déjà eu des fraudes lors des premiers votes dans le Sahara et dans les casernes en début de semaine.
Je vais voter et vous réserve un scoop. Je vais voter pour moi-même. Demain, je verrai à la fois le taux de participation des Algériens et que je m'assumerai de charge suprême de l'État que dans le cas d'une participation franche et massive du peuple algérien.
C'était la façon dont Europe 1 présentait cette élection en 1999 avec ce personnage haut en couleur que le monde entier allait apprendre à connaître, Abdelaziz Bouteflika. Mais notre histoire commence un tout petit peu plus tard, après ces élections contestées, précisément le 16 avril 1999. Abdelaziz Bouteflika a obtenu 74% des voix et le nouvel élu se rend dans la salle de presse à Alger. Et là, après être monté à la tribune, il s'amuse à tester les micros en constatant qu'ils fonctionnent mal. C'est un geste d'ailleurs que faisait souvent Wari Boumediene, son prédécesseur, voire son mentor. Il joue entre fausse colère et facétie, l'homme simple et direct, et commence un échange avec les journalistes avec une fraîcheur de ton à laquelle on était guère habitué. Son service d'ordre, de fait, n'a pas hésité à bousculer même les journalistes à l'entrée de la salle, tant la foule était dense pour entendre le nouveau prince de l'Algérie contemporaine. Il s'amuse à dire dans cette conférence qu'il ne voulait pas avoir un vote à 99% des suffrages, puisqu'il était le seul candidat maintenu à l'élection présidentielle. Ses 6 concurrents avaient retiré leur candidature car ils soupçonnaient de graves fraudes dans le processus électoral. En terminant sa conférence de presse, Abdelaziz Bouteflika devait être satisfait. Il n'avait pas hésité dans cet étrange échange à critiquer la France et dire qu'il refuserait pour son pays toute tutelle ou tout protectorat. Quelques jours plus tard, le nouvel élu avait sa véritable investiture. On était le 28 avril 1999. Et ce jour-là, devant quelques 2000 personnalités de la haute société politique algérienne, il allait prononcer son serment, posant la main sur le Coran, derrière une tribune toute de rouge tendue. Il avait apprécié le discours de son prédécesseur, Lyamine Zeroual, un dur, qui l'avait félicité pour la confiance que le peuple lui a octroyée en toute transparence et liberté, car, disait-il, la campagne avait été une élection libre. Encore à la tribune, que pouvait penser Abdelaziz Bouteflika ce jour-là? Était-il en train de se refaire le film de sa vie? De se repasser les grandes étapes qui avaient permis qu'enfin, ce 28 avril 1999, il devienne le nouvel homme fort de l'Algérie? Il y a des rencontres qui changent une vie. Celle que va faire le jeune Abdelaziz Bouteflika, tout juste âgé de 19 ans, à Oujda, en 1956, va être cruciale. Oujda, c'est sa ville, mais c'est aussi celle où se trouve le commandement, l'un des commandements régionaux de l'armée de libération nationale. Et le responsable local, n'est autre qu'un certain Wari Boumediene. Il va repérer ce jeune homme, petit, fluet, il fait à peine 1,65 m, et va l'intégrer dans le cercle restreint de son état-major. C'est comme cela que Bouteflika va devenir un homme de l'armée des frontières. C'est dans ce groupe que vont se nouer des amitiés très profondes et durables, et que va se constituer ce qu'on appelle depuis le clan d'Oujda, c'est-à-dire une tendance politique destinée à gouverner l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika va mener quelques opérations militaires, dont une attaque du sud de l'Algérie depuis le Mali, d'où l'adjonction à son surnom dans la clandestinité, Si Abdelkader, d'un surnom, El Mali, le Malien. Si Abdelkader El Mali fait donc partie du clan qui va remporter la guerre d'Algérie et qui en 1962 se retrouve projeté sur le devant de la scène. Parmi eux, il y a un homme, Ahmed Ben Bella, qui sera le prochain chef d'État. Et donc, Abdelaziz Bouteflika obtient presque comme une récompense, en 1963, le poste de ministre des Affaires étrangères. Wari Boumediene, de son côté, a été ministre de la Défense. Tout pourrait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais Ahmed Ben Bella va décider, en 1965, de retirer son poste à Abdelaziz Bouteflika. Si bien que, quelques jours plus tard, le 19 juin 1965, Boumediene conduit un coup d'État pour restaurer la puissance du clan d'Oujda et la puissance militaire algérienne. C'est ainsi que se met en place un nouveau régime politique, une dictature sous l'autorité du colonel Boumediene. Bouteflika continue d'y être ministre des Affaires étrangères et à ce titre, il fait partie des décideurs de la politique pétrolière mondiale. Il parle notamment au nom des ministres de l'OPEP. Tenez, écoutez-le justifier en 1974 la hausse du prix des matières premières.
Les problèmes pétroliers sont utilisés dans un contexte déterminé qui vise premièrement à régler une situation d'injustice que ni les instances internationales, ni les grandes puissances autrefois réunies à quatre n'avaient pu régler. Deuxièmement, la situation pétrolière qui est créée maintenant s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation des rapports entre le tiers-monde et le monde développé, c'est-à-dire la valorisation des matières premières.
Wari Boumediene a été nommé ministre de la Défense. Pour lui donc, il existe une inégalité que le pétrole va contribuer à combler. Grâce à cela, eh bien, l'Algérie devrait devenir un pays prospère. Mais en 1978, sa carrière va connaître une interruption. Wari Boumediene, son mentor, meurt. Il tente de s'imposer dans la succession et dans la lutte pour prendre la suite à la tête de l'Algérie, mais c'est Chadli Ben Jedid qui est préféré par l'état-major militaire. Bouteflika restera peu de temps encore ministre des Affaires étrangères, mais bientôt, il rentrera dans sa traversée du désert. Longue traversée du désert, pendant laquelle l'Algérie change. En 1988, il y a eu un début de démocratisation, mais qui n'a pas abouti. L'arrivée des islamistes, leur développement, le début de la guerre civile en 1991 et les violences de plus en plus lourdes à partir de 1992. Il y a eu aussi, il l'a vu de loin, lui qui est rentré dans les affaires, à partir de 1994, une libéralisation de cette économie socialiste qu'avait voulu installer le FLN. Mais la violence prime sur tout. Bien sûr, Bouteflika a essayé de revenir, mais il n'y est pas parvenu. L'homme fort de l'époque, c'est Lyamin Zeroual, élu président en 1994, un dur, quelqu'un qui veut obtenir une répression contre ces islamistes qui sèment la guerre civile et le désordre en Algérie, mais pas seulement, en France aussi, puisqu'en 1995 surviennent les attentats à Paris et en région lyonnaise. La confusion du conflit est telle que certains massacres encore aujourd'hui restent encore inconnus. Tenez, l'un des plus célèbres est celui de Bentala, dans la banlieue d'Alger. Cela s'est passé dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997. Voici comment Europe 1 en rendait compte à l'époque.
Il y a au moins 200 tués et 100 blessés selon le récit des rescapés. Le commando qui est arrivé, c'est scindé en deux, est arrivé hier soir, peu avant minuit, c'était 80 peut-être. Ils ont pris tout leur temps pour tuer à l'arme blanche et les personnes qui essayaient de s'enfuir ont été tuées par balles.
Le massacre a été d'une telle violence. L'armée n'est-elle pas intervenue par crainte que les routes soient minées ? Certains diront que c'est un massacre de provocation, d'autres un massacre de réaction, d'autres tout simplement une action terroriste. Mais dans tous les cas, nous avons tous en tête l'image qui est issue de ce drame. C'est une photo prise par Hossine Zarwar près d'Alger dans un hôpital. Elle représente une femme endeuillée, la tête tournée sur le côté, après le massacre de sa famille. Cette image a été surnommée la Madone de Bentala ou la Pietà algérienne. Et chacun l'a en tête. Elle représente le drame vécu par la société algérienne dans cette époque. Et précisément, en 1999, au moment où il fait son investiture de président, Abdelaziz Bouteflika est conscient que le principal défi qui s'ouvre à lui pour cette présidence est celui de la paix. Si d'ailleurs il a été préféré par les élites algériennes et notamment l'état-major au candidat du type Zeroual, c'est parce qu'il représente une personnalité susceptible, à partir de la référence au passé, de rétablir une forme de paix civile en Algérie. Bouteflika va s'y atteler. Ce sera, dès l'année 1999, le vote de la loi sur la concorde civile. Une manière de remettre à zéro les Algériens face aux violences subies de part et d'autre. Concorde civile d'abord, et puis à partir de 2006, réconciliation nationale. Dans les deux cas, la stratégie de Bouteflika est simple. Il s'agit d'amnistier les crimes de manière à permettre aux anciens terroristes comme aux militaires qui ont commis des exactions de se retrouver désormais à l'abri. C'est une stratégie qui va s'avérer relativement payante. L'Algérie va retrouver la paix, même si, de temps à autre, un attentat terroriste viendra endeuiller la nation. C'est bien ce processus de paix qui fonctionne à partir de 2002 et qui permet au président Abdelaziz Bouteflika d'être réélu en 2004. Cette élection, d'ailleurs, comme la précédente, a quelque chose d'étrange. 5 candidats s'opposent à Abdelaziz Bouteflika. Le plus connu appartient au FLN, il s'appelle Ali Benflis. Il fera 6,4% des suffrages, quand Bouteflika obtiendra, lui, pratiquement 85% des suffrages exprimés. C'est donc une réélection de maréchal, pourrait-on dire, pour le président de la République sortant, mais qui se retrouve avec un obstacle. Il faut savoir penser loin quand on est un homme politique. Et penser loin, c'est penser au-delà des limites de son propre mandat. Or, la constitution algérienne à l'époque ne permet que 2 mandats successifs au président de la République. Pour Bouteflika, il devient donc vital d'obtenir une révision constitutionnelle afin de pérenniser son pouvoir. Il va donc travailler son entourage et travailler la société algérienne afin que soit adoptée en 2006 une réforme de la Constitution qui lui permette de se représenter pour un 3e mandat. Et c'est chose faite le 12 novembre 2008. La modification de la Constitution est votée par le Parlement algérien à main levée, s'il vous plaît, par 500 voix positives contre seulement 21 défavorables. Maintenant, il peut être président à vie. C'est sans doute ce qui explique que l'élection de 2009, indépendamment même des questions liées au processus de pacification remis en question par un attentat sanglant en 2007, c'est sans doute ce qui fait donc que cette élection de 2009 ait un caractère encore plus plébiscitaire que les précédentes. Pour les Algériens, est-on encore vraiment en démocratie? En tout cas, quand on interroge l'homme de la rue, comme le font les correspondants d'Europe 1, on peut avoir des sons de cloche très différents.
Abdelaziz Bouteflika a été reconduit sans surprise pour un 3e mandat présidentiel en Algérie. 90,24% des suffrages.
C'est un hold-up. C'est un peu fou. Ça me dégoûte, ce régime-là. Rien ne va plus en Algérie.
C'est insensé. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Tout était déjà préfabriqué à l'avance. C'est du sur-mesure.
Avec 90% des suffrages et 74% de suffrages théoriques, Abdelaziz Bouteflika en serait presque arrivé à ce qu'il avait pronostiqué, rappelez-vous, en 1999, 10 ans plus tôt. Un score de presque 99%. Cela pourrait presque le faire sourire. Signe du rassemblement autour de lui et du consensus qui se fait autour de son nom, L'ancien président Ahmed Ben Bella, victime du coup d'État de 1965, est même présent en 2009 au moment de la prestation de serment de Bouteflika. Bref, c'est comme si toute l'histoire de l'Algérie se donnait rendez-vous pour communier derrière le grand homme. Et pourtant, l'histoire va prendre un cours étrange. L'Algérie de cette époque a connu une transformation économique en profondeur. La libéralisation s'est accentuée, mais à sa faveur s'est développé un secteur informel qui échappe à l'économie. De l'autre côté, sous la pression du FMI et de l'économie mondiale, le pays doit en arriver à réduire ses dépenses, mais il n'y parvient pas. Toute l'immense manne pétrolière est utilisée pour entretenir un système clientélaire soumis à l'État, à l'armée et au clan Bouteflika. Si bien que le pays ne parvient pas à décoller. Son économie semble végéter. Il n'a pratiquement pas d'industrie, l'agriculture continue d'y être prédominante et une vaste classe pauvre survit tandis que émergent les élites de la richesse presque mondialisées. C'est dans ce contexte que les tensions recommencent à émerger en Algérie et pourtant, il n'y aura pas de printemps arabe en Algérie parce que la peur des années de plomb, la peur des années de guerre civile est encore présente dans les mémoires et dans la population. Un incident survient. Le président, que l'on dit parfois malade, que l'on dit parfois fatigué, va faire un accident vasculaire cérébral. Et tout d'un coup, le pays découvre la fragile santé de son commandeur.
Après 3 semaines d'hospitalisation à Paris, c'est la confusion qui règne autour de l'état de santé du président de la République. Les rumeurs les plus folles courent depuis quelques jours ici à Alger sans qu'il y ait de démenti officiel ou de communiqué précis. La population pointe du doigt, il faut le dire, la communication de la présidence de la République qui fait défaut.
À partir de ce moment-là, la santé du président devient une sorte d'obsession collective pour les Algériens. Sera-t-il capable de participer à l'élection présidentielle qui doit venir l'année suivante, en 2014? On sait qu'il jouit à la Chambre d'une majorité absolue, encore reconduite en 2012. Et dans cette optique, beaucoup craignent que le départ de Bouteflika ne se traduise par une guerre de succession. Si bien que l'on se mobilise, dans les différentes strates de la société algérienne, parfois à l'initiative d'ailleurs, de personnalités obscures de l'entourage de Bouteflika. On parle beaucoup de son frère, on parle des généraux, mais en 2014, on va voir surtout le monde culturel se mobiliser et faire même un clip pour défendre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Parmi ceux qui vont y participer, l'humoriste Smaïn, le chanteur Khaled, Kenza Farah, et puis des sportifs, boxeurs, footballeurs et des acteurs. Bref, une polémique va éclater à propos de ce clip. Certains des participants ont été payés. Serait-ce un signe que le système de corruption de la présidence Bouteflika a aussi gagné désormais le monde culturel ? Ce clip, bientôt retiré, puis bientôt remis en ligne, pourrait être un élément de différenciation de cette campagne pour le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Mais sur le plan politique, les candidatures de ses adversaires se ressemblent. On retrouve Ali Benflis, qui fera 12,3% des voix comme candidat indépendant au premier tour. On retrouvera aussi Louisa Hanoun, du Parti des Travailleurs. En tout, 5 adversaires qui, une fois de plus, sont largement distancés par Abdelaziz Bouteflika. Cette fois, il est élu avec 81% des voix et malgré le scepticisme des Algériens pour sa santé, il triomphe de nouveau, signe qu'une bonne partie du pays redoute un changement, voire un retour vers les années de plomb. C'est d'ailleurs ce qu'une partie des personnes interrogées vont dire au micro des journalistes d'Europe 1 en 2014.
Bien, vous savez, ce résultat n'étonne vraiment personne ici. Hein. Il était connu d'avance. D'ailleurs, cette victoire n'a même pas été célébrée. On n'a pas vu de liesse populaire, tout juste quelques klaxons. Certains soutiens de Bouteflika avouent même clairement qu'ils ont fait ce choix faute de mieux et qu'ils sont bien conscients des possibles fraudes, mais que ça n'a pas dû changer grand-chose.
Sincèrement, j'ai peur de l'anarchie. On a peur de l'anarchie. On a peur des gens qui veulent profiter de l'occasion pour rendre le pays comme la Syrie ou bien la Libye. On ne gagne rien de cette anarchie.
Une élection à peine célébrée, mais une victoire réelle, et un président qui désormais dispose d'un poids renforcé au sein des élites algériennes. Sans doute est-ce pour cette raison qu'en 2016, il se paye le luxe d'une réforme constitutionnelle ainsi que d'une réforme du département renseignement et sécurité, l'unité de la sécurité militaire qui, jusqu'à présent, tenait l'Algérie dans sa main. Comme si c'était lui l'alpha et l'oméga du pays. Cette Algérie vit au rythme de Bouteflika depuis 1999. Les jeunes gens qui vont avoir 18 ou 20 ans n'ont pratiquement connu que lui comme horizon politique. 45% de la population algérienne a moins de 25 ans. Il existe donc une génération Bouteflika. Une génération habituée à passer de petits boulots au chômage, à redevenir petit entrepreneur, à essayer de s'en sortir avec ce vaste secteur informel dans lequel est demeurée l'économie algérienne. Cette absence de modernisation du pays, ou plutôt ses retards et ses à-coups dans la modernisation, empêche véritablement le pays de se sentir pleinement entré dans le 21e siècle. À côté de ce monde-là, il existe un vaste univers de fonctionnaires, maintenus la tête hors de l'eau par l'État et qui savent bien à qui ils doivent leur survie. En somme, toute l'Algérie n'est pas l'adversaire de Bouteflika. Mais il existe des secteurs de contentement et de mécontentement. Certains ont gagné durant l'ère Bouteflika, d'autres, au contraire, ont perdu et sont restés maintenus dans une pauvreté reconduite. Derrière Bouteflika se trouvent donc des réseaux d'intérêts. Réseaux familiaux, réseaux ethniques, tout le clan de Tlemcen, tout le clan d'Oujda, réseaux militaires, réseaux affairistes, réseaux populaires. Comme si l'Algérie fonctionnait en termes d'intérêts avant de raisonner en termes démocratiques ou politiques. Dans la période qui s'ouvre, pour les Algériens, Bouteflika apparaît comme un fantôme. Pour beaucoup d'entre eux, il est cette silhouette aperçue lorsqu'il y a un voyage officiel, comme celui d'Emmanuel Macron en 2017, assis sur un fauteuil, le costume sombre, restant la bouche fermée, le regard un peu perdu. On l'a encore vu d'ailleurs aux élections locales, aller voter, mais chacun a remarqué sa main tremblante et son silence perpétué. Au fond, à l'heure du bilan, les Algériens savent ce qu'ils lui doivent. Sans doute, grâce à lui, la paix a-t-elle été possible et rapide, mais ce fut une paix sans justice et sans jugement. Et puis, ils savent aussi que peut-être une autre voie était possible, une voie qui aurait permis à l'Algérie un meilleur développement et sans doute de donner des espoirs plus grands à sa jeunesse. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda,
préparée par Adèle Salmon, réalisée par Julien Tarot.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.
À bientôt pour un prochain épisode.